Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
Le livre biblique des Proverbes nous enseigne comment nous comporter avec sagesse sur les thèmes touchant notre quotidien. Mais à présent, nous considérons ceux qui abordent les relations de l'homme envers Dieu.
Oui, Yann, aujourd'hui nous allons considérer quelques proverbes qui parlent de la confiance que nous devons placer en l'Éternel. Mais lisons d'abord au chapitre 3, les versets 5 à 7. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. »
Que signifie « mettre sa confiance en l'Éternel » Lorsque j'ai par exemple un problème avec ma voiture, je sais très bien que je ne peux pas le régler moi-même. Je dois l'emmener chez un garagiste et lui faire confiance, espérant qu'il va le réparer efficacement et honnêtement. De même, si j'ai un problème de santé, je me rends chez le médecin, en qui je dois faire confiance et espérer qu'il va comprendre ce qui ne va pas et trouver le remède approprié. Pouvons-nous établir un parallèle entre ces exemples et la confiance que nous devons mettre en l'Éternel ?
Vous avez raison, Yann, de rappeler qu'au quotidien et dans des situations bien diverses, nous sommes amenés à devoir faire confiance aux autres et espérer qu'ils accompliront bien leur travail. Vous admettez aussi que les êtres humains ne savent pas tout, qu'ils ne peuvent tout réaliser. Nous devons faire appel aux autres, là où par nous-mêmes nous ne pouvons remédier à nos problèmes. Le proverbe lu tout à l'heure nous rappelle que par-dessus tout, nous devons placer notre confiance en l'Éternel. Car nous ne pouvons nous reposer sur notre propre intelligence, qui, il faut l'avouer, est limitée. Nous ne parvenons pas à tout comprendre, à tout résoudre. Et si vous, Yann, qui n'êtes pas médecin, vous essayez de soigner des malades, que se passerait-il ?
Là, je risquerais d'aggraver la condition et peut-être de causer le décès. Mais je ne m'hasarderais jamais à prendre de tels risques.
Alors, pour ces mêmes raisons, le sage qui a rédigé ce proverbe nous exhorte à placer notre confiance en l'Éternel. Au lieu de nous reposer sur notre propre intelligence qui est trompeuse et vaine, il nous encourage à nous tourner vers Dieu. Sans cela, nous risquons de gâcher nos vies et aussi celles des autres.
Mais dans quel domaine devons-nous mettre notre confiance en l'Éternel ? Pouvez-vous nous citer quelques exemples ?
La liste en serait fort longue. Dans cette série sur les proverbes, nous avons déjà parlé de la sagesse de l'Éternel sur des sujets assez divers tels que « Comment être un bon ami ou un bon voisin ?» Ensuite, nous avons abordé les proverbes sur l'utilisation de la langue, la parole. Avez-vous mis votre confiance en l'Éternel en prenant ses conseils au sérieux et en les mettant en pratique ? Dieu se révèle dans bien des domaines. Il fait connaître à l'homme sa pensée et sa volonté tout au long de la Bible. La Bible répond aux questions profondes, telles que la vie et la mort, qui est Dieu, et comment pouvons-nous le connaître, vivre sous sa faveur ? Quel regard devons-nous avoir sur les maux et les malheurs qui tourmentent notre existence ? Quelles sont nos origines ? Quel est notre avenir ? Comment définir le bien et le mal, le vrai et le faux ?
Effectivement, ces sujets sont vastes et profonds.
Et je voudrais affirmer ceci. Livrés à eux-mêmes, les hommes ne parviendront jamais à trouver les bonnes réponses à leurs questions, car tous ont besoin de l'aide de celui qui sait tout et dont l'intelligence surpasse la leur.
Et cette personne est-elle l'Éternel ?
Oui, l'Éternel est le Créateur de toutes choses. Voilà pourquoi il connaît tout. Il est le Dieu de toute éternité. Il vit depuis les temps les plus anciens jusqu'à jamais. Il sait tout, il connaît nos origines, il connaît notre avenir. Là où notre intelligence ne peut rien, là où elle rencontre ses limites, l'Éternel choisit de se révéler aux hommes et il leur fait connaître ses desseins. Cependant, les hommes en proie à l'orgueil n'aiment pas faire appel à Dieu. Ils ne désirent pas avouer que l'être humain ne peut tout solutionner et par leur propre force, leur propre intelligence, ils cherchent des réponses aux questions profondes évoquées tout à l'heure.
Et que pensez-vous de ces réponses, de cette sagesse issue de l'homme ?
bien les proverbes nous conseillent de ne pas y placer notre confiance. La sagesse humaine est faillible et trompeuse, mais aussi parce que les hommes sont sujets à la méchanceté, leur sagesse peut nous égarer. Si nous mettons notre confiance dans la sagesse des hommes, inévitablement, nous nous égarerons loin de l'Éternel et nous finirons par gâcher nos vies dès maintenant et pour l'éternité.
L'enjeu est donc fort important.
Effectivement, il y a un choix important à faire. Qui écouter? Qui suivre? La sagesse de Dieu ou la sagesse de l'homme? En qui allons-nous mettre notre confiance?
Je me souviens d'un proverbe prononcé par Jésus, qui, lui aussi, nous met en garde contre toute attitude accordant trop d'importance à la sagesse humaine. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et verset 39, nous lisons « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé ?»
Oui, c'est la preuve que l'enseignement des proverbes et celui de Jésus s'accordent parfaitement. Mais concluons notre discussion aujourd'hui avec un dernier proverbe, chapitre 29 et verset 25. « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. »
Merci Alain, ne l'oubliez jamais. L'Éternel est vraiment digne de confiance. À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui, après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouva totalement démuni et affamé. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et décida de rentrer chez lui. Mais alors qu'il était encore loin de sa maison, son père l'aperçut et courut à sa rencontre. Il désirait lui pardonner toutes ses fautes passées. Il voulait fêter son retour. Mais comment donc a réagi son fils aîné? C'est ce que nous allons davantage considérer. Écoutons d'abord la suite de cette histoire.
Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. »
La dernière fois, nous avons vu que le fils aîné, même s'il est resté auprès de son père, montre par son comportement qu'il ne vit pas une relation épanouie avec lui. De même, certaines personnes en apparence pieuse ou respectable peuvent passer à côté d'une relation authentique avec Dieu. Flavien, pouvez-vous nous dire quelle est la racine du problème chez ce jeune homme si rancunier?
Son problème, me semble-t-il, est qu'il ne se considère pas comme un fils dans sa relation avec son père, mais plutôt comme un serviteur. Et c'est ce qui a bien sûr changé son regard envers son père et sa relation avec lui.
Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela?
Eh bien, lorsque ce fils reprend son père, de façon très humiliante devant tous les invités, il affirme « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. » Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et nous pouvons remarquer qu'il parle d'être au service de son père. Il emploie des termes qu'un serviteur emploierait, et il lui rappelle son obéissance.
Et pourtant, ce fils qui prétend être obéissant est en train d'insulter son père et de lui faire subir une humiliation publique.
Vous avez raison, Yann, de soulever ce fait. Une contradiction existe entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cet incident prouve qu'il n'est pas le fils exemplaire qu'il prétend être. Mais revenons maintenant à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce fils définit sa relation avec son père en termes de service, de devoir et d'obéissance.
Mais cela ne devrait-il pas caractériser toute relation entre un fils et son père ?
Oui, mais il paraît que ce fils ne pense qu'à cela. Ses sentiments envers son père ne se limitent qu'à une servitude pesante et rancunière. Il est vrai qu'un enfant doit respecter ses parents, leur obéir et les aider. Mais il devrait aussi éprouver de la joie à le faire. Il faut travailler à ce que les liens d'amour se tissent, à ce que le plaisir d'être ensemble soit vécu, à ce qu'il y ait une soumission confiante. Or, ce garçon ne semble pas jouir de toutes ces choses. Il ne semble pas profiter de tout l'amour que son père peut lui offrir. Il paraît plutôt être en proie à l'amertume. Tout ce qu'il accomplit pour son père est fait à contre-cœur. Non pas parce qu'il l'aime, mais par devoir.
Ce fils se trouve dans un bien triste état. Avec qui pouvons-nous comparer son attitude ?
Nous pouvons comparer son attitude à celle de personnes en apparence religieuse, mais qui sont tombées dans le légalisme.
Qu'est donc le légalisme ?
Une personne légaliste va rechercher avant tout l'obéissance à un code de loi et sa relation avec Dieu s'exprimera essentiellement par le devoir de le servir. Elle se considérera aussi envers le Seigneur comme un serviteur. Celui qui est légaliste pense qu'en respectant une liste de règlements, il obtiendra ainsi la faveur de Dieu.
Oh, cela n'est pas le cas.
Il faut effectivement veiller à mener une vie droite et juste. Toutefois, ceux qui ont une vision légaliste des choses passent souvent à côté de la grâce de Dieu et se prive de son amour et de la véritable relation qu'il offre à tous. Fixée sur ses devoirs, la personne légaliste ne vit plus que pour accomplir des règlements. Et sa relation avec Dieu devient lourde et pesante, lui procurant ni joie ni plaisir. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous.
Que veut-il alors ?
Dieu veut que nous soyons ses enfants et que nous jouissions de cette relation avec lui.
Et connaissez-vous des textes bibliques pour appuyer ces propos ?
Eh bien, citons parmi d'autres les versets écrits par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, puisque tu es fils. Tu es héritier des biens promis grâce à Dieu.
Sur cette note de joie, nous vous disons au revoir.
En souhaitant vous retrouver bientôt, nous vous remettons entre les mains du Seigneur.